fois, ça vous est déjà arrivé dans la peur. C'est lui qui me dit non, mais je vais avoir un peu de mal à le croire. Et tout de mon sens, ce matin, et celui-ci, triompher de la peur. Alors, grand message, interpellant, la peur, qu'est-ce que c'est? Savez-vous qu'en France, un quart de Français a consommé ce qu'ils appellent des psychotropes, des antidépresseurs, durant l'année écoulée? Que l'Europe est l'endroit où le plus d'antidépresseurs sont distribués, et que de plus en plus de personnes consomment, et en particulier des femmes de plus de 70 ans, un tiers des hommes prennent des médicaments. Bref, des choses qui, quand je les ai lues, m'ont vraiment interpellé sur le fait qu'on est dans un pays, et pas qu'en France d'ailleurs, où on est assez souvent insécurisé. Il ne faut pas grand-chose pour que vous alliez dans tel quartier ou tel quartier pour vous dire « Oh, c'est pas très à l'aise ». Et non seulement on a des craintes qui sont là, mais les craintes, elles ne sont pas simplement externes, mais elles sont aussi internes. Qui, dans sa vie, n'a pas eu un moment peur de se dire « Qu'est-ce qui va se passer demain ?» Qui, à un moment dans sa vie, n'a pas eu peur de se dire « Mais qu'est-ce qui va se passer si tel événement arrive ?» Qu'est-ce qui va se passer quand je vais perdre telle personne? Qu'est-ce qui va se passer? Et les craintes qui commencent à venir au fond de notre cœur et qui commencent à arriver, qui commencent à nouer l'intérieur. Et, bon, on est entre nous, hein, je me permets de dire, je pense qu'on est chrétien, on n'a pas peur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On peut être chrétien, chrétien depuis des années, et on a dit tous les jours, et pourtant avoir certaines craintes, certaines peurs. Et la question que je me pose, pourtant il y a certains versets, certaines choses qui nous encouragent. Et j'aimerais qu'on termine ce temps ensemble sur quelque chose d'encourageant. C'est que la Bible nous dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Est-ce que tu entends amen à ce verset? Vous êtes sûr d'avoir vraiment dit amen? D'accord. Ça veut dire que vous croyez. Ça veut dire que personne n'a peur, c'est réglé. Vous comprenez bien que la peur n'est plus qu'un simple mécanisme dans lequel on réagit face à une circonstance. La réalité, c'est que la peur est une émotion. C'est quelque chose qui fait partie de nous. La peur, elle est même fondamentale à l'humain. C'est un sentiment d'incapacité, d'impuissance, et on la ressent, et quand elle prend une telle ampleur, elle peut venir jusqu'à nous nouer les entrailles au point qu'on ne va pas bien. Et même si elle est de l'ordre de l'imaginaire, elle a des conséquences sur le physique. Par exemple, vous avez fait un cauchemar la nuit, vous vous réveillez, vous êtes en train, vous êtes complètement en fumant partout, et même vos mains, vous avez du mal à revenir. Pourtant, c'est presque que de l'imaginaire. Mais la peur a des conséquences sur notre physique. Alors, est-ce que Dieu nous reproche d'avoir peur? Parfois, la conclusion qu'on peut avoir, qui est une conclusion assez hâtive, c'est de dire, mais finalement, si tu as peur, c'est que tu n'as pas assez confiance en Dieu. Alors, j'aimerais juste vous dire quelque chose. Jésus a eu peur. Et pourtant, quelqu'un qui avait bien confiance en Dieu, c'était bien lui. Alors qu'il est dans le jardin de Gethsémané, il fait référence à l'angoisse que Jésus est en train de vivre, que tu sais ce qui va se passer. Dieu ne nous reproche pas d'avoir peur, mais dans nos peurs, il nous rassure. La peur, la culpabilité, la honte, c'est important de les reconnaître au fond de notre vie, parce que ce sont des émotions existentielles, qui sont même définies, qui se rattachent à notre identité. Mais quand on laisse la peur gagner notre vie, le danger, c'est finalement, on arrive dans une phase de stagnation. Alors, voyons ensemble la définition de la peur. La peur est humaine, comme je viens de vous le dire. Plus que la peur, c'est un sentiment intérieur, une émotion intérieure d'appréhension, d'inquiétude, de froid, de terreur, accompagnée des actions ou de symptômes physiques qui apparaissent suite à une menace, un danger imminent ou associés souvent à un objet. On a peur des araignées, on a peur des serpents, on a peur, et on associe ça à quelque chose. Et ce qui m'intéresse dans cette définition, c'est que la peur est bien quelque chose avec lequel on est doté au moment. Ça fait partie de nous-mêmes, ça fait partie, et ça fait partie de nous-mêmes, de notre identité. Alors ma question est celle-ci. Pourquoi Dieu nous a-t-il créés avec la peur? Après tout, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Pourquoi Dieu a-t-il besoin de dire à Josué, alors qu'il va prendre la suite de Moïse, il ne prend pas, et quand ça ne suffit pas une fois, il va lui répéter trois fois. Je crois que ça veut dire que si nous sommes créés avec la peur, c'est parce que la peur parfois peut nous être utile. Si vous allez dans une zone qui est dangereuse et que vous avez peur, rassurez-vous, c'est normal. Si vous allez dans un endroit où vous savez que vous n'êtes pas en sécurité, rassurez-vous, c'est normal. Votre fonctionnement est normal. Si quelqu'un va dans une zone et qui est dangereuse, dans un quartier qui est un peu sûr et qui dit j'ai peur de rien, c'est pas normal. La peur est quelque chose de normal dans la mesure où la peur nous protège. Elle nous assure un minimum de protection. Même la Bible nous dit que celui qui craint de s'engager est plus bon. La peur est quelque chose d'un sentiment, une émotion normale. Le danger, vous avez bien compris, c'est quand la peur devient irrationnelle. C'est quand la peur commence à prendre toute notre vie. En réalité, on ne sait pas vraiment quoi elle est constituée, ce sera plutôt la peur de la peur. Un état d'appréhension, ce qui vient de danger, une menace réelle, qui va provoquer des crises d'anxiété, des peurs disproportionnées. L'angoisse, les peurs de la peur, c'est comme un cauchemar qui ne s'arrête jamais. Et il faut bien dire, parfois, la peur est simplement le résultat, alors je dis simplement, je prends toutes les mesures pour le dire, de crises intérieures qui n'ont pas forcément été réglées au fond de nous. La peur de perdre, elle est consciente. Je discutais avec un ami qui est pasteur dans une autre région et qui me disait, quand je me suis marié, ma femme m'a dit tout de suite qu'une de ses peurs, c'était de perdre ses enfants. Et ça fait partie de son, une de ses craintes par rapport, et qui est par-dessus tout, et ça domine toutes ses relations, les relations avec les enfants, au point qu'elle est très proche de ses enfants, très serrée, mais presque difficile parfois, parce que sa peur détermine toute sa vie. Et un jour, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un signalement qui a été fait par une femme, qui était une voisine, parce qu'elle a entendu juste des cris, et il y a un signalement. Et à ce moment-là, on a sorti la terre en disant, on va venir voir ce qui se passe et on peut potentiellement retirer nos enfants. Imaginez-vous ce qui s'est passé à ce moment-là. Comment la peur a ressurgi. Et comment les enfants arrivent en disant souvent, ça ne m'arrivera jamais, c'est ce que vous disiez, mais en réalité, ça peut arriver. Par la grâce de Dieu, il n'y avait rien du tout. Les services sociaux ont vérifié, ils sont venus regarder, il n'y avait pas de problème. Et ce mari m'a expliqué qu'à ce moment-là, il me dit, à ce moment-là, j'ai compris que sa peur, en réalité, j'avais besoin d'être là pour la rassurer, ne plus la juger sur sa peur. Et le plus grand danger, frères et sœurs, en tant que chrétien, c'est qu'on a plus tendance à juger celui qui fait peur que de l'aider dans sa peur. Et ça, c'est un danger. Pourquoi? Parce qu'on a souvent des versets clés, des principes qui nous amènent à dire, mais oui, tu peur, c'est parce que tu manques de quelque chose. Alors, Denis Morissette a dit quelque chose sur l'intensité de la peur. Je vous le cite. Il dit, nous n'avons pas de pouvoir sur l'émotion, mais nous avons pouvoir sur l'intensité de l'émotion. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout gérer, parce que la peur est une réaction naturelle. Par contre, on a le pouvoir de savoir qu'est-ce qu'on laisse comme place à la peur dans notre vie. Quelle place on veut laisser à la peur? Est-ce que c'est la peur qui détermine chacune de tes actions? Est-ce qu'on peut aller plus loin en disant qu'on peut même avoir peur de Dieu? Parce que si je fais quelque chose ou je ne fais pas quelque chose, Dieu va me sanctionner, Dieu va m'arrêter. Peut-on avoir peur de réellement ce que... des choses qu'on ne connaît peut-être pas bien, je pense que c'est un des dangers qui nous guette. De dire que parfois, eh bien, on peut avoir peur parce qu'on ne connaît pas. L'intensité de la peur, ça va commencer par l'intensité légère. Il y a une peur qui est relative à la... qui va traverser la route, il y a beaucoup de voitures, il y a la peur qui va venir. Mais une fois que c'est tu peux passer. Puis l'intensité légère va progresser pour devenir des préoccupations qui, tout doucement, dans ta tête, ça fait que tu es tellement occupé que tu as du mal à dormir. Puis tes préoccupations, tu vas entrer dans la peur, celle qui commence à te paralyser. Et puis tu évolues sur la capacité ensuite, tu arrives dans ce qu'on appelle l'anxiété. Et quand l'anxiété arrive encore un stade au-dessus, on grimpe et on arrive à la phobie. Pour aller encore un peu plus loin jusqu'à la paranoïa. Voilà les différentes intensités de la peur. Et vous savez, en tant que chrétien, notre objectif n'est pas de juger celui qui passe par ces états-là, mais c'est de dire comment on peut entourer celui qui a peur. Alors, si je m'arrête là, je fais un constat et je me dis, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne vais pas m'arrêter là, vous êtes d'accord avec ça? Non? Ok, je continue. savez qu'est-ce qui fait que plus de peur dans une vie? C'est le tout petit bébé. Pendant 9 mois, un bébé se retrouve dans le ventre d'une maman, dans lequel il n'a pas à s'inquiéter pour manger, il n'a pas besoin de respirer, il n'a pas besoin de s'inquiéter pour savoir si la nourriture va arriver comme il faut, il n'a pas besoin de savoir s'il va boire, il n'a pas besoin de savoir s'il a besoin de porter des vêtements, puisqu'il est au chaud. Et il n'a pas besoin même, et c'est ça que quand vous voyez comment Dieu travaille trop, vraiment d'une manière extraordinaire, c'est que même le son est atténué. Si ça, ce n'est pas un élément sécurisant, des fois, on aimerait bien tous s'écrouler, que ce cocon n'a plus aucune inquiétude, et le bébé dans une pleine entièreté. Et puis, il y a un élément, ça lui, on lui dit maintenant, c'est bien, c'est un cocon, et d'un coup, on va te dire, sors de là, c'est le temps. Et là, vous prenez cet enfant super sécurisé et vous le confrontez à toutes les peurs que nous-mêmes, on a du mal à gérer. Au moment où il sort, il entend un bruit infernal parce qu'il y a 25 médecins tout autour. Et puis, il est confronté à un truc qui vous fait mal aux yeux, qui s'appelle la lumière, parce qu'il y a toujours été protégé. Et alors qu'il sort, il n'a jamais besoin de s'exprimer, là on lui tape dessus parce qu'il ne tape plus trop aujourd'hui. Mais pour qu'il puisse s'exprimer, pour qu'il puisse sortir. Et en plus de ça, alors qu'il n'avait jamais besoin de respirer, instantanément, il faut qu'il respire. Et s'il ne sait pas où il faut qu'il respire. Comprenez bien que le cadre sécurisé de l'enfant, c'est juste extraordinaire. Et tout d'un coup, tout le temps que nous, on a dû la gérer, lui, il est prend compte. Et alors, la question que je me pose, c'est comment on fait pour rassurer un bébé? Il y a quelque chose de magique, d'extraordinaire, de miraculeux. C'est que quand tu prends le bébé, tu le prends, tu le déposes sur le cœur de la mère, tu ressens les yeux de la mère, tout ce que la maman a vécu au quotidien, instantanément le faire. Alors, je voudrais juste vous dire que tout ça se passe et que Dieu a fait ça de la manière la plus extraordinaire pour chacun d'entre nous au moment de notre naissance. Ça veut bien dire qu'il y a une solution à nos pères. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, quelle est la solution à nos pères? Comprenez bien aussi que vous n'existez pas à vos pères. Bon, je vais juste comparer en disant si Dieu a prévu une solution pour l'enfant, il a prévu une solution pour chacune de tes pères. Amen. Un texte qui m'a interpellé et j'aimerais qu'on puisse le lire ensemble. Je trouve dans 1 Jean, chapitre 14, verset 16. Et je vais vous citer, regardez, on va le lire ensemble. Parce qu'il y a un texte qui nous dit que la crainte est complètement bannie à un instant. Et je vais le lire avec mon titre. L'amour parfait bannit la peur. Bannit la retire complètement. On va se dire ce texte ensemble, regardez. C'est bon, vous êtes avec moi? Et nous avons connu l'amour que Dieu nous porte, que nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et voici pourquoi l'amour se manifeste pleinement parmi nous. C'est pour que nous ayons une entière assurance au jour du jugement. D'autant plus que notre situation dans ce monde est celle que le Christ a connue lui-même. Verset 18. Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour véritable chasse toute crainte. En effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. Quant à nous aimons Dieu parce que Dieu nous a aimés le premier. C'est pour entendre amen à ça. L'amour parfait bannit la crainte. Alors, comment comprendre continue? Comment comprendre au quotidien? J'aimerais vous faire une petite leçon d'enjeu qu'on puisse comprendre ensemble. Vous êtes toujours là? Alors, excusez-moi, des fois, pour ceux qui me connaissent pas, je suis un prof, un ancien prof, et des fois, j'ai besoin qu'on explique les choses de manière très visuelle. Alors, on va essayer de comprendre ensemble ce que produit l'amour et comment ça se passe. Alors, je vais faire quelques courses. Hein, vous êtes là? Et j'aimerais vous faire une petite expérience. Ne vous inquiétez pas, vous ne pouvez pas faire le cours de cuisine, ma femme s'en charge, elle fait ça très bien. Parce qu'elle m'aime beaucoup. Hop, est-ce que tout le monde voit bien le bébé? Oui. Vous n'allez pas trop fort? Alors, voilà notre vie ensemble. Et voilà nos moments dans lesquels Dieu nous a créés, le moment où Dieu nous accompagne chaque jour, le moment où Dieu nous donne la vie. Et puis, à un moment dans notre vie, ce qui se passe, c'est qu'il y a quelque chose qui s'appelle la peur qui commence à surgir. Comprenez bien que je vous ai dit tout à l'heure que la peur est quelque chose qui, finalement, est au fond de nous. Mais le danger, c'est quand la peur nous gagne. Alors, ce qui se passe, en fait, c'est que quand la peur nous gagne, alors que notre vie, elle est au clair, il y a des petites gouttes comme ça qui commencent à arriver, et ça commence à salir notre eau. Et alors, on se dit, bah, on va prendre une solution. Vous allez voir des médecins ou des gens qui vont me dire, bon, attends un peu, ça va passer. Ou fais du yoga, comme ça, tu vas te centrer sur toi-même, et ta peur va disparaître. Ou fais de la méditation. La méditation, elle, entre nous, la méditation, elle a commencé d'abord dans la Bible, mais on ne médite pas sur nous-mêmes. On est dit que c'est Dieu. Est-ce que tu entends un amen à ça? Amen. Mais on dit, on attend un petit peu, on fait un peu d'éducation, on essaie tout de suite de solutions, mais la réalité, c'est que finalement, ça ne change pas. Alors, comment je fais maintenant pour séparer cette peur de la vie de tous les jours? Alors, bonne réponse. Je vis de verre. Le problème, c'est que si c'est de verre, pour moi, ça veut dire qu'on n'a plus le droit d'avoir des émotions. Et Dieu nous apprend avec des émotions. Mais je ne vais pas vous dire. Qu'est-ce que je peux faire? La réalité, c'est que, on va souvent essayer d'ajouter des choses pour essayer de mettre les choses en fond et de frapper les peurs en fond. Et on rajoute, alors on va rajouter un peu de spiritualité, on va rajouter un peu de silence parce que ça nous rassure. Beaucoup d'amis essayent de mettre les freins en fond, mais en réalité, ça ne peut pas changer le fond du cœur parce qu'il n'y a qu'une seule chose qui peut faire changer le fond du cœur. Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est d'aller plus à la source. Alors, c'est pris de l'eau de source. Et la réalité, c'est qu'avec Dieu, l'amour de Dieu comme une source qui ne parie jamais, qui vient d'en haut. L'amour de Dieu, et je remercie aussi pour les gens qui nous ont amenés à vivre, parce que c'est vraiment le cœur de mon message. L'amour de Dieu, elle vient d'une source pure, elle vient d'une source qui n'a pas de limite. L'amour de Dieu n'a rien à voir même avec le meilleur de tous les amours que tu connais. L'amour de Dieu est le meilleur de tous les amours, capable d'aller transférer et de trouver ce qu'il y a au fond de ton cœur pour lui faire ressortir et mettre en lumière toutes les craintes qu'il y a au fond de toi. L'amour de Dieu, c'est l'amour d'un père envers chacun de ses enfants. C'est l'amour agapé. C'est l'amour extraordinaire. C'est l'exemple d'amour par excellence. La Bible nous dit, je vous le dis tout à l'heure, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est l'amour de Dieu qui est le moteur qui va nous amener à découvrir qu'il est que dans l'amour, il n'y a pas de crainte. Alors qu'est-ce qui va se passer? Dieu, qui plie son amour, va se trouver dans sa nature, va venir commencer à déverser son eau en nous, à condition qu'on l'accepte. Amen. À condition que notre foi soit mise en action. Et ce qui va se passer, c'est qu'alors que tu vas remplir, tu vas laisser Dieu remplir de son amour, petit à petit, qu'est-ce qui se passe? Les peurs se frappent, et c'est l'amour de Dieu qui te remplit. Mais alors, attention, l'amour, même si à un moment tu te prends de Dieu, peut-être que dans les temps d'un bon venir, qu'est-ce qui va se passer? La réalité, c'est que tant que tu restes connecté à Dieu, que tu gardes ta relation avec Dieu, même si les craintes ressurgissent, l'amour de Dieu va constamment te nettoyer de l'intérieur, te rassurer, t'encourager et faire partir ces craintes qui sont tout autour de ta vie. Est-ce que tu entends la main? Est-ce qu'on est prêt à dire, Seigneur, il n'y a que l'amour de Dieu? Et rassurez-vous, comme vous avez fini vos bouteilles, j'en ai une deuxième. Mais moi, je garde tout le temps mon truc. Parce que Dieu ne mettrait pas son amour en bouteille en réalité. Dieu ne mettrait pas son amour en bouteille. Il prie directement la source. Comprenez bien que l'amour de Dieu a cette capacité à venir te chercher au fond de ta vie. À les faire qui vont cacher au plus profond et commencer à déverser dans ta vie pour que les craintes puissent remonter à la surface pour mal et que tu puisses remplacer tes craintes par l'amour de Dieu. Le problème, c'est un des dangers, c'est qu'on a du mal et on fait du mal à l'amour de Dieu. Mais vous savez, ils nous disent, j'ai beau être converti depuis des années, mais être pasteur, j'ai encore besoin de découvrir le vrai amour de Dieu. L'amour qui fait que même quand tu as péché, même quand tu es à côté de la plaque, si tu reviens vers lui, il t'aime encore. L'amour de Dieu qui fait que tu peux être au plus profond, dans les plus profonds ombres de ta vie, tu peux être dans les plus profondes des dépressions. Dieu t'aime encore malgré ta dépression. Et bien souvent, l'amour de Dieu, on le connaît mal. avec la peur de Dieu qui va se mêler. Alors, j'aimerais soulever un point suivant aussi pour aller dans la suite, parce que c'est ça, c'est que parfois on connaît mal l'amour de Dieu parce que nos valeurs sont mal placées. La Bible nous dit là où ton trésor, là aussi, sera ton cœur. En réalité, les craintes, elles émanent de ce qu'on vit au quotidien. Et si tu as peur, c'est peut-être parce que les valeurs sur lesquelles tu t'es appuyé, qui sont les valeurs centrales de ta vie, elles ne sont juste pas placées au bon endroit. Et là, à ce moment-là, tu as une crainte parce que tu te dis, mais finalement, qu'est-ce qui va m'arriver? Mais si nos valeurs sont centrées sur ce qui est Christ, sur le cœur sur ce qui est Christ, alors à ce moment-là, la valeur, qu'est-ce que ça va être celle de Dieu? Et bien souvent, on vit dans un monde où les gens ont soif de posséder, il en faut encore plus. Comprenez bien, je ne parle pas du fait d'avoir de quoi vivre au quotidien. Je parle juste du fait de mettre ça, de centrer sa vie simplement sur des valeurs matérielles. Dieu nous encourage à dire, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, faites connaître vos besoins, car Dieu est lui-même ce dont vous avez besoin. Amen. Peut-être que ici, on parle de la mort, de ce qui va se passer. Dieu nous dit que celui qui croit en lui aura la vie éternelle. Martin Luther a dit, les gens qui ont peur de la mort sont ceux qui ont plus souvent peur de la vie. C'est un peu dans l'instant. J'aimerais conclure avec la troisième et dernière partie. Connaître l'amour de Dieu peut triompher de la peur. Donc, M. Paul, il y a aussi quelque chose qui est juste extraordinaire qui s'appelle Éphésiens 3, 17. Et c'est la prière de Paul pour chacun d'entre nous, pour l'Église, mais aussi pour nous. Il vous demande qu'il vous accorde à la mesure de ses glorieuses richesses d'être fortifié avec puissance par son esprit pour votre être intérieur. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Vous serez ainsi à même de comprendre, avec tout ce qui appartient à Dieu, combien l'amour du Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui dépasse tout ce qu'on peut connaître, et vous serez ainsi rempli de toute la plénitude de Dieu. Rempli de toute la plénitude de Dieu. Amen. Rempli. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Saint-Esprit, viens visiter mon esprit. Viens prendre la place. Besoin de ce Saint-Esprit qui tient la vie. Et mettre Christ au centre de nos valeurs, au centre de nos cœurs, au centre de notre vie. Et c'est enfin d'être enraciné et fondé dans l'amour. C'est un texte qui m'a toujours interpellé, alors que je me suis souvent appelé à essayer de respecter les choses pour gagner l'approbation de Dieu. Je me suis souvent dit, il faut que je sois un bon chrétien parce que comme ça, Dieu m'approuve. Mais en réalité, il y a un texte qui m'a toujours interpellé, c'est quel est le plus grand commandement de la loi? Quel est le plus grand des plus? Jésus va lui répondre. Un, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et plus grand tout le commandement. Car oui, parce que l'amour de Dieu, quand tu aimes Dieu, c'est ce qui transforme toi sur le quotidien. Amen. Est-ce que finalement tu peux dire que Dieu a déjà pu prendre dans le quotidien, dans le pratico-pratique? Amen. Alors, tous ceux qui ont levé la main, s'il y a des questions, allez voir celui qui a mis la main. C'est bon? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Tu feras de lui le centre de ta vie. Parce que c'est ça qui fait la réalité. C'est la notion de aimer, de donner sa vie pour lui. Et le second qui lui semblable, tu aimeras le prochain, ton prochain, comme toi-même. Et ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Nous sommes tous remarqués avant que je conclue pour demain. Tu aimeras le Seigneur ton cœur de tout ton âme. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur de toute ton âme et ton prochain comme toi-même. Déjà, si tu n'aimes pas, c'est compliqué de nous approcher. Et bien souvent, on ne s'aime pas parce qu'on a des peurs en fond de nous, qu'on n'a pas mis en lumière, qu'on n'a pas exprimé les pensées. On n'a pas dit, Seigneur, voilà où j'en suis, voilà mes craintes, voilà mes inquiétudes. Et je vous encourage vraiment à avoir cette honnêteté devant Dieu. Seigneur, voilà là où je peur. Voilà ce que je crains. Voilà ce qui me fait peur. Voilà ce qui est au fond de mon verre. Ce matin, je dois avoir la liberté pour présenter mes peurs. Et vous savez, quand vous présentez vos cœurs, vous déposez, Christ prend la place de vos cœurs. Parce qu'il est mort à la croix pour que nous ayons la liberté. Et quand vous voyez, il prend la place. Une réalité, je l'ai vécu, il n'y a encore pas si longtemps que ça. Le matin, je me lève et je suis rempli d'inquiétude pour. Je vous dis, on est entre nous? Ouais. Bon, vite fait. On est vite fait entre nous. Un matin, je me lève et je commence à être inquiet pour le rassemblement 4. Pourquoi? Parce qu'il y a 425 jeunes qui vont débarquer ici. Et je suis le responsable principal. Alors, je me lève avec tous les trucs qui tournent. Je n'arrive jamais, mais moi, ça m'arrive. Tous les trucs qui tournent dans ma tête. Je me dis, est-ce que j'ai pensé à ça? Est-ce que j'ai pensé à ça? Et à un moment, quand c'est Dieu, il me dit, tu n'es même pas encore levé, tu n'as même pas commencé à me prier. Et me demander. Et j'ai vécu vraiment le temps fort avec Dieu, un moment fort avec Dieu. Je dis, Seigneur, voilà toutes mes craintes. Ça, et ça, c'est l'enseignement. Voilà toutes mes craintes. Et puis, on a commencé à sortir. Et la peur a commencé à sortir de moi. Et la peur, quand Dieu me disait, ça, je m'en occupe. Ça, je m'en occupe. Ça, je m'en occupe. Et c'est vrai. Dans les jours d'après, les portes qui sont ouvertes les unes derrière les autres, les impossibles, elles soient complètement apaisées. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. L'amour de Dieu est là au quotidien pour faire sortir nos peurs, pour les supprimer et dire maintenant je remplace l'amour par les craintes. Amen. Alors ma conclusion, ma vraie conclusion, je vous promets c'est la vraie. Ouais, je suis un vrai pasteur, je dis trois fois. 2 Timothée 1:7. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Et la version parole du monde nous dit de lâcheté ou de défaitisme. Il y a un esprit de courage, d'amour et d'enthousiasme. C'est un esprit actif et aimant qui nous rend fort et capable de nier. Il nous donne un jugement sain et une parfaite maîtrise, de nous-mêmes. Amen. Je vais conforme les yeux ensemble à l'instant. Et je vais vous dire que vous nous rejoindre. J'aimerais que ce matin, pendant que 5 minutes, nous ayons cette liberté de dire à Dieu nos craintes. Quelle qu'elle soit, que ce soit la crainte des enfants, que ce soit la crainte du travail, de partager vos craintes à Dieu. Et de dire, Seigneur, voilà mes craintes, voilà mes inquiétudes. Tant qu'elles ne sont pas exprimées, elles ne peuvent pas sortir. Parce que c'est comme si Dieu te dit, mais dis-moi ce qui ne va pas, dis-moi, nous pensons qu'on entend tout. Et alors qu'on ferme les yeux ensemble, peut-être que ce matin, tu viens avec une crainte particulière, je ne sais pas dans quel domaine. Et tu n'as plus à craindre Dieu parce que Dieu est un Dieu aimant. Tu n'as plus à craindre Dieu dans sa façon d'agir. Dieu est un Dieu aimant. Dieu voudrait faire sortir ses craintes. Dieu voudrait faire ce qui est en toi et remplacer les craintes par l'amour de Dieu. Les craintes sont normales. Elles font partie de la créature. Elles ne doivent pas définir la créature. Mais encore plus longtemps, Dieu voudrait vraiment tout donner. Comment tu nous expliques ce que c'est la première fois que tu viens, que Dieu ne veut pas être là. Je te parlais tout le temps de la crise. Je t'en ai compris, à ton avis. Je te connais chaque personne qui est là dans ce livre. Je connais les craintes qui sont de personne de côté. Les craintes, c'est ce qui se sent caché. Les craintes de jamais trouver un conjoint, les craintes de rester toujours tout seul. De jamais finir le mois ou de prendre ce que tu veux. C'est différent de prendre ce que tu veux. C'est prendre de tout le monde. C'est prendre de ne pas voir la vie. Lorsque tu m'attends toutes ces craintes, je vais te déposer. Et en jouant tous ces paroles qui me sont des craintes, crois en Dieu. On veut vraiment s'approprier les craintes, crois en Dieu. Et laisser à ce moment-là l'amour de Dieu venir te remplir, toi, là, sur ton. Dans ton cœur, de dire, Seigneur, tu m'aimes tellement, tu vas pas me laisser tomber. Parce que vu qu'il n'y a plus en toi, tu peux décider. Ce matin, on veut plus essayer de prendre par l'amour de Dieu, l'homme qui est fier de Dieu. Je te remercie de ce que tu nous as jamais fait, et que l'amour de Dieu nous enverra d'une grâce tellement extraordinaire que le Christ doit disparaître. Vive avec assurance de te dire, l'amour parfait de Dieu, l'amour d'accord.